Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours une joie de pouvoir adorer notre Seigneur ensemble et de pouvoir venir dans sa présence en tant qu'Église et d'avoir la liberté de pouvoir être ensemble, d'être devant notre Seigneur. Et donc, pour ceux qui ne sont pas là avec nous physiquement, mais qui sont derrière l'écran, et pour chacun ici, c'est un honneur, une joie de pouvoir adorer notre Seigneur. Ce week-end, nous avons beaucoup parlé de l'Église persécutée, de ce qui se passe ailleurs dans le monde, ce que cette Église peut nous apporter. C'était pendant ma deuxième année à Porte-aux-Ouettes, en 1983-84. Et à cette époque-là, on était une toute petite équipe près de Strasbourg, et je montais de façon régulière aux Pays-Bas, où il y a le siège de la mission, parce que frère André est néerlandais, et on avait des réunions. Et je me souviens de cette réunion, on avait une toute petite salle de réunion, on n'était pas nombreux, et frère André était avec nous. Il a fait une annonce, il a dit « nous allons prier ». Nous allons lancer une campagne de prière pendant 7 ans et nous allons prier pour l'Union soviétique, pour Moscou. Nous allons prier pour ce pays qui est le siège du communisme dans le monde et nous allons demander à Dieu de changer le monde. Je me suis dit, bon, quelle idée, fantastique. J'étais enthousiaste, mais au fond de moi-même, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'on peut vraiment voir le monde changer? Moi, je suis un enfant de la guerre froide. J'étais élevé dans un monde divisé en deux. Il y avait la partie rouge, le monde communiste, qui était toute l'Europe de l'Est, l'Union soviétique, la Chine, Cuba, tous ces autres pays qui étaient communistes, et puis les pays capitalistes et démocratiques. Mais les communistes étaient bien présents, même chez nous. Je me souviens quand j'allais évangéliser chez moi, on a parté samedi matin sur la place devant les magasins, il y avait nous et les communistes qui vendaient leurs journaux. Et les communistes étaient présents chez nous. Et puis j'ai commencé à voyager en Europe de l'Est et là j'ai vu le rideau de fer, les mines, les gardes, les soldats. Et puis dans ces pays, il n'y avait pas un sentiment de rébellion, c'était plutôt très paisible. Un système, à part l'Église, qui était vivante, au moins dans certains pays, comme la Roumanie. Il y avait le printemps de Prague, mais ça a été écrasé par les Russes. Est-ce que ça pouvait vraiment changer? La mission était plus petite. Est-ce que la prière pouvait vraiment avoir un impact? Si on demande à n'importe quel chrétien, est-ce que la prière est importante? Il dirait oui, évidemment. On prie tout le temps, on prie à la table, on prie avec nos enfants. Si j'ai un problème pendant la journée, je prie. Mais si je disais que prier, c'est la chose la plus productive que vous pouvez faire. Une minute passée dans la prière est plus productif que tout le travail que vous allez faire aujourd'hui. Ça serait une exagération. Que la prière est la chose la plus importante qu'on peut faire. De prendre contact et de parler au Créateur de l'univers. D'avoir quelques paroles avec Dieu. C'est la chose la plus importante, la plus significative qu'on peut faire. Je pense qu'on oublie l'importance de la prière. Et peut-être une raison, c'est parce qu'on oublie qu'il y a une bataille. Et une des choses que je pense, j'espère, qui est sortie de ce contact avec l'Église persécutée, c'est de nous remettre devant le combat. Nous rappeler que nous sommes dans un combat. Et l'Église persécutée nous rappelle que le combat est là. Vous savez, je dis souvent que vous ouvrez votre Bible, il y a un parfum qui dégage, c'est le parfum de l'Église persécutée. Le Nouveau Testament est écrit en prison par l'apôtre Paul. C'était une église persécutée qui parlait. Et justement, c'est Paul en prison qui écrit à l'église à Éphèse. Et dans chapitre 6, versets 11 et 12, Paul dit ceci. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Paul savait qu'il y avait une bataille. Il était en prison, entouré par des soldats. Il savait que la vie chrétienne, c'est une bataille, une lutte. C'est une confrontation spirituelle. Je suis pour tout ce qu'on fait sur le plan matériel. Je suis passionné par le plaidoyer. Ce qu'on appelle le plaidoyer, c'est quand on va devant les décideurs, les gens de pouvoir, et on essaie de plaider la cause de l'Église persécutée. Mais la bataille n'est pas là. La bataille, c'est une bataille spirituelle. Et Paul le disait, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul savait que derrière l'Empire romain, derrière les autorités juives, les fonctionnaires, les soldats, il y a un monde spirituel et notre bataille fondamentale, c'est dans ce monde spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Le mot que Paul utilise pour lutter, c'est un mot qui, je pense, arrive et paraît juste une seule fois dans le Nouveau Testament. Et le mot « palo » veut dire, en fait, jeter ou balancer quelqu'un. C'est une image des jeux grecs, des athlètes, que deux hommes venaient et avec la force, ils essayaient de jeter l'adversaire par terre et puis avec leur force, tenir cette personne contre la terre. Et il dit, notre lutte spirituelle avec les forces spirituelles, c'est comme ça. C'est une lutte où l'ennemi veut nous forcer et obliger d'être inclinés par terre. Il ne va pas nous tuer, il va simplement nous tenir contre la terre. Mais nous, nous devons être debout pour notre Seigneur. Le but du diable, c'est de nous rendre immobiles, aplatis, soumis. Et puis Paul, dans ce passage dans Éphèse, parle de l'armure. Il dit que nous, les soldats de Christ, nous sommes habillés avec une armure. Et sans doute, là dans la pièce où il était gardé, il y avait des soldats romains et il méditait sur ce qu'il voyait. Il a dit, oui, nous avons besoin d'un bouclier, d'une épée, etc. Donc, toutes ces parties de l'armure, de la panoplie de l'armure. Mais toute cette armure est là pour nous aider à faire une chose. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, dit Paul, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre ma bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. La bataille, mes amis, c'est dans la prière. La bataille sera gagnée par la prière. C'est là où ça commence, c'est là où ça finit. Et comme tout soldat général qui est dans une guerre, dans une bataille, d'abord il faut avoir une vision sur ce qu'on appelle le théâtre des opérations, sur globalement ce qui se passe. Et c'est ça que frère André a vu. Il a dit, notre bataille, c'est avec un monde spirituel. Il y a une présence spirituelle, le communisme, et nous allons prier contre ce monde-là. Le monde, On en a parlé hier, on a parlé de ce qui se passe dans nos pays européens, occidentaux, autant que dans les pays où l'Église est persécutée. Est-ce qu'on est résigné? Est-ce qu'on dit, bon, on ne peut rien faire? Le monde est comme ça. Il faut juste accepter. Peut-être on se dit, mais tu sais, le Seigneur va revenir bientôt et la Bible dit que les choses vont aller mal avant son retour. Donc, tant mieux, laissons les choses comme ça. Un des livres préférés que moi j'ai aimé beaucoup de Frère André est un livre qui s'appelle « Et Dieu changea ses plans ». C'est un livre un peu controversé parce que certaines personnes disaient que la théologie d'André n'était pas tout à fait correcte. Mais je comprends ce qu'il voulait dire. Il a écrit juste après la réponse à cette campagne de prière. Il disait que nous, les chrétiens, on est parfois fatalistes. On dit que si le monde est comme ça, c'est parce que Dieu le veut. Et comme Dieu veut le bien, ça veut dire qu'il faut que ça soit comme ça. Laissons les choses comme ça. Un peu comme les musulmans. Inch'Allah, c'est la volonté de Dieu. Mais André dit non. Dieu nous appelle à intervenir, à prier, à demander à Dieu de changer le cours de l'histoire, de ne pas accepter les choses comme ça. Et il prend des exemples dans l'Ancien Testament. Il semble que Dieu change d'avis, que Dieu annonce, je vais faire quelque chose, et quelqu'un se met debout et prie, et Dieu fait autre chose. Est-ce que nous sommes prêts à prendre le Seigneur comme ça et prier? Si mon peuple qui est invoqué, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détend de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si, le Seigneur dit, si mon peuple s'humilie et prie. Ça dépend de nous. Est-ce qu'on est prêt à prier? Prier pour notre pays, prier pour les pays où l'Église est persécutée et demander à Dieu de changer le cours de l'histoire. Dans ce livre, il cite son amie Corrie ten Boom. Vous vous souvenez de Corrie ten Boom? C'était une femme qui était emprisonnée dans les camps de concentration à Buchenwald, je ne sais pas, non, en Allemagne. Parce qu'elle prenait soin, elle gardait les enfants juifs. Elle est attrapée et mise dans un camp de concentration. Et Corrie ten Boom a dit ceci. Est-ce que nous sommes des thermomètres ou des thermostats? Elle a dit qu'il y a des chrétiens thermomètres. Un thermomètre, qu'est-ce que ça fait un thermomètre? Un thermomètre, il mesure la température. Et souvent les chrétiens sont des très bons thermomètres. On sait exactement ce qui se passe autour de nous, on sait exactement les températures. Mais elle dit non, nous sommes appelés à être des thermostats. Le thermostat, je change la température. Et notre rôle, c'est d'avoir une influence dans ce monde, d'être prêt à prier pour que Dieu change le monde dans lequel nous vivons. Nous avons lancé cette campagne de prière pour l'Union soviétique. 7 ans de prière pour l'Union soviétique. On peut avancer les... Voilà, là vous le voyez. 7 ans de prière pour l'Union soviétique. Jusqu'à quand? La première année, rien n'a changé. Je me souviens, on suivait de près le nombre de chrétiens en prison dans l'Union soviétique. Et il semblait que de plus en plus de chrétiens étaient emprisonnés. Est-ce que Dieu répondait à nos prières? Et puis, vers deuxième année, troisième année, commence à entendre parler d'une certaine personne qui s'appelle Mikhail Gorbatchev. Et puis, ce petit mot glasnost et perestroïka. Et au fur et à mesure que les années passaient, il y avait quelque chose qui se passait en Union soviétique. Il y a exactement 7 ans après le début de cette campagne de prière, le mur de Berlin est tombé. Et le monde avait changé. Quand on allait là-bas et on disait aux chrétiens de l'Europe de l'Est, nous avons prié pendant 7 ans et vous voyez que le rideau de fer est tombé, eux ils ont dit, nous on a prié pendant 70 ans. Pas 7 ans, mais 70 ans. Mais Dieu répond à la prière. On vit dans un monde où il y a un combat spirituel. Combien la prière, l'intercession pour ce monde fait partie de nos vies, notre vie d'église, ma vie personnelle. Il y a d'autres combats. Quand le rideau de fer est tombé, Porte Ouverte s'est tournée vers le monde musulman. Et on a tout de suite commencé avec une campagne de 10 ans de prière pour le monde musulman. Est-ce que Dieu a répondu à cette prière? Bon, l'islam est toujours là. L'islam, dans un sens, semble être beaucoup plus fort aujourd'hui qu'à l'époque, avec tous ces djihadistes et le terrorisme et ces extrémistes. Mais vous savez, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans le monde musulman aujourd'hui. Quelque chose qu'il n'a jamais fait depuis 10 siècles, 13 siècles. J'ai un ami qui a fait un travail sur les mouvements de conversion dans le monde musulman. Ils appellent ça des mouvements où à peu près, une fois qu'on a un mouvement, où à peu près 10 000 personnes viennent au Seigneur dans un endroit dans le monde musulman, ils appellent ça un mouvement. Et il a regardé pendant toute l'histoire. Et il a montré qu'entre le l'an 600 ou 700, le début de l'islam, jusqu'à l'an 2000, on peut continuer, voilà, il compte 15 mouvements. Où Dieu, il semble, a touché un peuple musulman, une communauté musulmane, il y a eu beaucoup de conversions. Et puis, depuis l'an 2000, 69, pas jusqu'au bout. Ça, c'est ça que Dieu fait aujourd'hui dans le monde musulman. Dieu répond à la prière. Dieu est en train de secouer l'islam. Et c'est pour ça qu'il y a cette réaction contre le monde. C'est parce qu'au fond, l'islam est en train d'être secoué par Dieu. Jamais on n'a vu autant de personnes se tourner vers le Seigneur. Ils sont touchés par des rêves, par des visions. Souvent, c'est pendant la nuit, dans un rêve, ils voient un homme habillé en blanc. Et au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est Issa, Jésus. Et donc, après, ils commencent à poser des questions et le Seigneur les emmène vers un chrétien. Et ils disent, j'ai vu cette personne, Jésus, c'est qui? Et le chrétien ouvre la Bible et explique. Je me souviens de l'histoire d'un homme qui était chauffeur de voiture de sport. Il roulait très vite, c'était dans une course et il y a un accident. Et sa voiture commençait à rouler comme ça. Et il a vu devant lui, dans sa voiture, l'homme en blanc qui, avec sa main, a arrêté sa voiture. Et l'homme, sa vie était sauve. Il est sorti. Il dit, c'est qui cet homme qui a réussi, avec sa main, à empêcher ma voiture d'aller jusqu'au bout, que je sois tué? Il commençait à poser des questions. C'était Jésus. Dieu répond à la prière. Mais est-ce que notre vision est sur ce qui se passe dans le monde, ce que Dieu est en train de faire? En Afghanistan, un pays où il n'y avait aucune église, rien du tout. Et aujourd'hui, il y a des communautés, des familles converties. Certes, il y en a qui perdent la vie. C'est très, très dangereux. J'étais en Afghanistan il y a quelques années. Je me souviens, j'ai rencontré un chrétien. On s'était assis par terre, parce que là-bas, on n'utilise pas des chaises. On est toujours assis par terre, les jambes croisées. Et il était en face de moi, et on a parlé. La fin de la discussion, il m'a dit, « Michel, ne dis à personne en dehors de cette pièce que je suis chrétien. » Parce qu'il sait que si les voisins, quelqu'un apprend, il serait tué sur le champ. Mais Dieu, malgré ça, appelle les gens et les gens viennent à lui dans ce pays. Comment nous voyons notre monde, notre pays, avec la politique d'aujourd'hui, avec ces problèmes d'interdiction, la parole haineuse et le laïcisme dont on a parlé hier. Est-ce que nous prions pour notre pays? Que Dieu change le cours de l'histoire, que notre pays puisse être atteint de nouveau par lui. Portes ouvertes organise des voyages d'intercession où nous envoyons des équipes dans les pays. Ce sont des pays parfois où on ne peut pas avoir contact avec la population, mais on va simplement pour prier, pour être là et demander là sur place que le Seigneur agisse. À Pyongyang, en Corée du Nord, sur la grande place centrale, et on marche, et on prie. Et les gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Mais nous, on est là, et on prie pour ce pays. On ne peut pas avoir contact avec des chrétiens. Ils nous voient parfois, parce qu'ils reconnaissent. Mais nous, on ne les voit pas. Mais on prie sur place. D'abord, on prie pour le théâtre d'opération. Mais Paul dit, prie pour les saints, priez pour moi. Et notre prière aussi doit être tournée vers les chrétiens eux-mêmes. Porte Ouverte est une organisation qui, pendant des années, a développé toute une expertise pour savoir comment fortifier l'Église persécutée. Pendant longtemps, j'ai travaillé dans le côté humanitaire, ce qu'on appelle le développement socio-économique. Il y a le côté spirituel, les Bibles, la formation spirituelle, le côté humanitaire, le plaidoyer. Tout ça, on va avec toute une gamme de choses pour aider les chrétiens. Mais qu'est-ce qu'ils demandent quand on va chez eux? Ils nous regardent et disent, notre première demande, c'est prier pour nous. Prier que le Seigneur nous aide. Prier pour nous. Et tout ce qu'on fait pour eux, c'est ce qu'ils demandent en premier. Priez pour nous. Pendant les années 80, on priait pour les prisonniers. Et j'aimerais vous passer une petite vidéo qui est un témoignage d'un chrétien orthodoxe. Son nom, c'était Alexandre Ogorodnikov. À l'époque, en Union soviétique, il y avait l'église baptiste, ce que les Russes appelaient des baptistes, il y avait des baptistes, des pentecôtistes, des frères, mais en fait, pour les Russes, c'était des baptistes. Donc, c'était des gens un peu bizarres. Et puis, il y avait l'élite qui était orthodoxe. Mais Dieu était en train à l'œuvre au sein de l'Église orthodoxe. Il commençait à toucher les jeunes personnes. Une de ces personnes, c'est cet homme qui s'appelle Alexandre Ogorodnikov, qui a commencé un mouvement dans les universités pour toucher et aborder les gens avec l'évangile. Il a été arrêté et mis en prison. Et la vidéo que nous allons regarder, c'est son témoignage, ou un témoignage sur lui. Alors la vidéo, je n'ai pas trouvé la version française, donc la vidéo est en anglais, mais moi je vais faire le voix off, donc je vais traduire en français ce qui est dit. Donc j'espère que ça va marcher. Donc c'est un récit de quelqu'un qui était dans le goulag soviétique. Son crime, c'était simplement de suivre Jésus-Christ. La faim est toujours là, pas seulement pendant quelques jours, mais pendant des semaines, des mois, des années. Tu ne peux pas l'ignorer. Et le froid, toujours là aussi. Un froid terrible. Parfois, c'était comme si ma circulation sanguine ralentissait. Personnellement, j'étais étonné par le pouvoir de l'endurance que j'avais, vu les circonstances. J'aurais dû être mort depuis longtemps déjà. Une nuit, j'étais jeté dans une cellule dont la fenêtre avait été brisée. Le KGB avait décidé de me faire mourir. Il dirait que c'est moi qui avais cassé les vitres et à cause du froid, j'étais mort. J'étais au désespoir. Est-ce que Dieu m'aimait vraiment? Ne m'avait-il pas oublié? Toutes ces années de souffrance avaient-elles été en vain? Dans mon désespoir, j'ai commencé à prier. Normalement, j'ai prié en silence. Mais cette fois-ci, j'ai supplié Dieu avec force, à haute voix. « Seigneur, m'as-tu abandonné ?» Ma voix explosait dans ma poitrine, dans un complet désespoir. Une nuit, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, une voix me disait de prier pour Alexandre. Je n'avais aucune idée qui était Alexandre. Mais j'en ai parlé à mon église et nous avons commencé à prier pour lui. À ce moment précis, j'ai ressenti une chaleur monter en moi. Une sensation de chaleur tout à fait physique. Pas comme une chaleur en provenance d'un radiateur, mais comme une chaleur semblable à une maman qui prend son enfant qui a froid contre sa poitrine, l'entoure de ses bras pour le réchauffer. Je sentais une chaleur vivante, réelle, humaine, qui pénétrait mon corps, qui allait jusqu'à mon cœur. Cette chaleur atteint mon cœur, c'est comme si c'était une fontaine qui s'est mise à jaillir, une fontaine de paix, magnifique. Je ressentais l'amour fraternel qui m'entourait de toutes parts, comme une main réconfortante sur mon épaule. Je savais que je n'étais pas seul, qui n'est pas abandonné. Cette chaleur était l'énergie que Dieu m'a donnée de sentir physiquement la chaleur de la prière, comme une protection, comme une seconde peau. Les pierres ont transformé l'énergie de l'amour en une énergie réchauffante. Au petit matin, mes exécuteurs, qui pensaient trouver un corps mort, n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ne comprenaient pas. Non seulement j'étais bien vivant, mais ma température était celle d'une personne en condition normale. J'ai entendu les docteurs dire à mes tortionnaires, « Tout ça, c'est simplement impossible. » Ce n'était pas possible de l'expliquer. À peu près 6 mois plus tard, nous avons reçu une lettre de portes ouvertes qui nous demandait de prier pour un certain Alexandre. Et nous avons compris que c'était l'Alexandre pour qui on priait. Alexandre avait commencé un mouvement chrétien qui s'étendait au travers de l'Union soviétique à l'époque. Pour ce crime contre l'État, il avait été placé dans un camp de prisonniers en Sibérie du Nord, condamné à mort pour ce crime. Et c'est comme ça que de nombreuses personnes se sont mises à prier pour moi. Et c'est exactement quand j'ai été libéré ce jour-là. La prière a été capable d'ouvrir les portes de la prison. Mais tout comme la parole de Dieu l'affirme, la prière libère les captifs.
Prayer opened the prison doors, and as the gospel affirms, set the captives free.
Et c'est très intéressant que ce n'est pas le seul témoignage que nous avons de ce genre, où les prisonniers ont senti dans un cachot, dans une cellule, que Dieu a répondu à la prière. Il les a réchauffés, il les a aidés physiquement dans la cellule. Hier, j'ai parlé de ce couple iranien, Victor Beth Tamaz, et son épouse qui viennent de sortir de l'Iran à la dernière minute avant d'être condamnés à une peine de prison. Et Victor, c'est intéressant, juste, il y a juste quelques jours, nous a dit ceci: vos prières sont comme une main qui nous tenait et qui nous protégeait. Vos prières étaient pour nous comme une main qui nous tenait et qui nous protégeait. La prière pour les pays, pour les grandes choses, et la prière pour nos frères et sœurs. Quelqu'un dit que la prière, c'est un paradoxe. Il n'y a aucune activité aussi complexe, aussi simple, mais aussi difficile. La prière, c'est les paroles les plus simples sur les lèvres d'un enfant et les paroles les plus sublimes qui atteignent la majesté de Dieu. C'est aussi nécessaire pour le philosophe âgé que pour le travailleur manuel. C'est le cri d'un instant et une attitude de toute la vie. C'est à la fois le repos de la foi et le combat de la foi. C'est l'agonie et l'extasie. C'est dans la soumission et pourtant ça importune le Créateur de l'univers. Dans le même instant, on interpelle Dieu et on lie le diable. Ça peut être dirigé vers une seule personne et ça peut voyager à travers le monde. La prière. C'est intéressant que la prière est tellement facile et parfois tellement difficile. Comment prier? Comment est-ce qu'on va utiliser ce temps que nous avons pour demander à Dieu de changer le monde dans lequel nous vivons? Tout récemment, dans une université aux États-Unis, les chercheurs ont étudié nos vies. Ils ont décidé que chaque être humain aujourd'hui, on dit en Occident, reçoit l'équivalent de 34 gigaoctets d'informations par semaine. Que, au courant de simplement une journée, on est confronté à 5000 annonces publicitaires. 5000. En moyenne, on reçoit 121 emails par jour. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais dans certains endroits, oui. Quand on se déplace, en moyenne, 40 km pour aller au travail. Qu'est-ce qui nous reste à la fin de tout ça? C'est 4 heures et 14 minutes, sans compter le sommeil, pour faire le jardin, faire le ménage, la cuisine, les achats, s'occuper de l'administration de la maison, emmener nos enfants à l'école, coucher les enfants. Comment trouve le temps pour prier? On sait tous qu'il faut prier, mais parfois la chose la plus difficile, c'est de trouver le temps pour le faire. Alors, j'aimerais vous proposer 3 petites choses ce matin pour finir. Vous avez besoin d'un rendez-vous, vous avez besoin d'un lieu, d'un endroit, et vous avez besoin d'un cahier. D'abord, vous avez besoin d'un rendez-vous, d'un temps, d'un horaire. Quand est-ce que vous allez prier? Avec une journée tellement pleine que ça, avec toutes les choses qui nous viennent, les enfants, l'animal, vous avez un chien, vous avez un chat, les voisins, l'école, le travail, l'ordinateur, le téléphone, comment et quand est-ce qu'on va prier? Jésus se levait. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Mon expérience dans la vie, c'est que le seul moment où je vais trouver de calme pour prier, c'est le matin. C'est quand je me lève. C'est avant que je prenne mon petit déjeuner. Quand les enfants sont toujours au lit. Avant que le téléphone sonne. Avant que j'aille au travail. Il faut que je me lève tôt. Combien de saints, de chrétiens dans le passé ont témoigné que c'était le matin quand on se lève, qu'on réserve un moment pour Dieu. Est-ce que dans votre agenda quotidien, vous avez ce moment que vous avez réservé pour le Seigneur? Un quart d'heure, une demi-heure, une heure, je ne sais pas. Mais un moment avec Dieu. Quelqu'un dit, il faut visiter Dieu avant de visiter le monde. D'abord, l'heure, le rendez-vous. Mettez ça dans votre agenda. Dites que c'est ça que je vais faire tous les jours de ma vie. Quand j'étais jeune, on disait « No Bible, no breakfast ». Pas de Bible, pas de petit déjeuner. Est-ce que vous allez prêt à prendre ça comme règle de vie? Pas de Bible, pas de petit déjeuner. Ce matin, je me suis levé tard. Tant pis pour le petit déj. Je passe mon temps avec le Seigneur. Mon petit déjeuner, c'est à 8 heures. Je me lève à 7 heures pour que j'ai un quart d'heure, 20 minutes avec mon Seigneur. D'abord, vous avez besoin d'un temps pour faire le faire. Et puis, vous avez besoin d'un endroit. Le problème, c'est qu'on vit dans une maison, et puis, comment trouver un endroit où on peut prier? Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père, qui est, dans les lieux qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Nous avons besoin d'un cachot. Alors, c'est peut-être un coin d'une pièce, avec une chaise où vous avez mis votre Bible, et c'est là où vous rencontrez Dieu. C'est le coin de votre maison. Et je trouve que si c'est toujours le même endroit, c'est pratiquement quand vous êtes assis là, vous êtes dans l'ambiance, vous êtes prêt. Et les autres pensées, on peut les écarter et dire, non, maintenant quand je suis là, c'est mon cachot, c'est le moment que je passe avec Dieu. L'horaire, le temps, le rendez-vous, votre cachot. Et la troisième chose dont vous avez besoin, c'est votre liste de prières, un carnet. Prier, c'est, on sait qu'il y a beaucoup de sujets, mais comment prier? Il faut les noter. Et moi, j'ai un carnet comme ça, et dans ce carnet, j'ai 2-3 pages par jour. Et ici, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je mets mes sujets de prière. Les sujets de lundi, les sujets de mardi. Et avec cette liste, je prie. C'est un peu mon procès-verbal avec Dieu. Le Seigneur sait ce que je lui demande parce que je l'ai écrit. Et quand Dieu répond, je peux mettre la date et dire c'est bon. Merci Seigneur. On ne peut pas garder les sujets dans notre esprit, à moins que vous... Bon, moi, je ne peux pas. Peut-être vous êtes plus intelligent que moi, je ne sais pas. J'ai besoin d'écrire. Vous recevez un sujet de prière dans l'église, écrivez-le. Vous avez un membre de famille, un cousin, une tante qui est malade, écrivez-la. Le besoin de vos enfants, la santé. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Pourquoi est-ce que je peux prier en ce moment? Parfois les sujets personnels, mais parfois le théâtre des opérations. Les grands sujets, comme le monde musulman, comme un pays. Prends un pays. Est-ce que vous avez un pays que vous avez visité et que vous avez à cœur? Peut-être vous avez fait des vacances en Inde et vous avez beaucoup aimé. Alors priez pour l'Inde. Il y a un besoin énorme de prière pour l'Église là-bas. Mettez l'Inde, ça c'est mon lieu de prière. Je prie pour ce pays. Et tout ce que vous entendez sur l'Inde, vous notez. Portes ouvertes, édite un magazine chaque mois. Et depuis toujours, il y a cette petite liste de sujets de prière, un sujet par jour. C'est pour vous aider à prier pour l'Église persécutée. Mettez ça dans votre carnet et vous avez besoin d'un lieu de prière. Ce printemps, j'ai écrit un livre qui va sortir dans juste quelques semaines, qui s'appelle tout simplement « Priez pour nous ». On m'a demandé d'écrire ce livre et je le fais avec tout mon cœur. prier pour l'Église persécutée. Comment prier? C'est un manuel de prière. Ça donne les solutions, les sujets. Comment prier pour l'Église persécutée? Un petit peu ce que j'ai dit ce matin, mais beaucoup plus étendu. À la fin des temps, quand Jésus revient, on va ouvrir le livre. Et ce que nous avons fait avec nos vies va être devant le Seigneur. Et Dieu va, je crois, sourire et nous regarder et dire merci. Mais peut-être on va être surpris. On imagine que ce serait peut-être des grands héros de la foi, des gens bien connus, des orateurs, des écrivains qui vont être là. Et on se serait surpris que ce que le Seigneur regarde avec le plus de joie, c'est la vieille personne qui a passé des heures dans la prière pour l'Église. Et il va dire, c'est elle, c'est cette personne-là qui a changé le cours de l'histoire. Tout ce que tu as pu faire dans ton Église, c'est elle qui a ouvert les portes. C'est elle qui a préparé le chemin. Que le Seigneur nous aide à devenir des hommes et des femmes de prière. Je prie. Seigneur, merci. Merci pour cet immense privilège de pouvoir prier. Parler à toi. Excuse-nous, pardonne-nous parce qu'on parle sans nous rendre compte à qui on parle. On parle et puis comme si c'est juste... Mais non, c'est à toi le Créateur. Tu es là, tu écoutes, tu entends nos paroles. Aide-nous à devenir un peuple qui prie, qui s'humilie, qui prie pour que tu guérisses notre pays, pour que tu guérisses notre monde, que tu fortifies ton Église persécutée, que tu agisses dans les prisons, dans les familles, chez les persécutés qui sont seuls à la maison, qui ne peuvent rien faire. Donne-nous, Seigneur, la foi, le courage et la discipline de devenir des hommes et des femmes de prière. Au nom de Jésus. Amen. On va finir avec une dernière petite vidéo. Non, pas celle-là. Ça, c'est donc le livre qui va sortir. Et puis...